Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée dont voici les titres. Le président de la République procède présentement à l'inauguration officielle du bâtiment ultra-moderne de l'université officielle de Mbujimayi. La cérémonie se déroule devant plusieurs personnalités du pays, les étudiants ainsi qu'une foule nombreuse venue participer à cette cérémonie. En Ituri, des violents combats ont éclaté ce lundi matin entre les FARDC et les miliciens de la CRP à Nyamamba et dans la périphérie de Kasseni. Selon plusieurs sources concordantes, l'armée congolaise a réussi à déloger les assaillants. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et de plusieurs blessés. Dans la province de la Tchopo, les organisations impliquées dans la protection des forêts et l'administration de l'environnement évaluent le processus de la mise en œuvre de la foresterie communautaire dans cette entité. Pour en parler, nous recevons le directeur de l'ONG Trompebons RDC, le professeur Alphonse Mahindo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bon début de la semaine à tous. Tous les regards sont tournés vers Mbujimayi, au Kasaï oriental, où le président de la République inaugure officiellement, c'est lundi, les bâtiments ultramodernes de l'université officielle de Mbujimayi. La cérémonie y afférente est en cours. Plusieurs personnalités publiques, dont la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les étudiants et une foule nombreuse, participe à cette cérémonie. Esther Dalafina nous décrit l'ambiance qui règne sur place.
Les bâtiments ultramodernes de l'université officielle de Mbujimayi seront accessibles au public ce lundi. Cela après la cérémonie officielle d'inauguration qui sera bientôt effectuée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est prévu au programme les mots du gouverneur de province, du représentant de l'entreprise SRP Corporation qui a construit l'université. Le représentant des étudiants de l'UOM va également prendre la parole. Il y aura le mot du recteur de l'université qui sera suivi de la locution de la ministre de l'ESU avant l'inauguration officielle par le président de la République. Il est prévu la remise symbolique des clés, la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque inaugurale ainsi que la visite guidée. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
L'université de Mbujimayi, dont le président est en train d'inaugurer, est construite au quartier Kansele sur son ancien site. Alors, comment se présente ce grand ouvrage universitaire? Esther Dalafina pour le reportage.
C'est un véritable bijou construit au centre du pays, affirment plusieurs habitants. Construite depuis 2002 sur son ancien site dans la commune de la Mouya, l'université officielle de Mbujimayi est dotée de 16 auditoires de 200 places chacun, de 2 amphithéâtres de 400 places chacun, d'une salle d'informatique de 60 tables de travail, d'une bibliothèque avec 44 tables de lecture, d'une salle de professeurs de 25 places, d'une résidence estudiantine de 154 chambres, d'un réseau autonome d'eau potable, d'un grand groupe électrogène, d'une cabine privée de connexion au réseau électrique extérieur et d'une clôture métallique. Par rapport à son aspect architectural et ses espaces ouverts et lumineux, certains habitants affirment que ce campus est devenu un lieu touristique attrayant de la ville. Elle compte 9 facultés, dont le droit, l'agronomie, la médecine, l'économie et autres. Elle offre plusieurs programmes, dont 48 au premier cycle, au cycle supérieure, l'université propose au-delà des 60 programmes d'études, ce qui permet aux étudiants d'autres provinces et des coins reculés de fréquenter cette université qui sera donc inaugurée dans quelques heures par le chef de l'État. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
À Kinshasa, pendant ces temps, le député national Steve Mbikai interpelle le gouvernement congolais sur la problématique de la démolition des constructions anarchiques à Kinshasa. Dans sa question orale avec débat, adressée au ministre des Affaires foncières et déposée à la Chambre basse du Parlement la semaine dernière, l'élu de Moamba à Kinshasa explique tout d'abord qu'il soutient cette opération qui vise à remettre de l'ordre en vue de prévenir les inondations dans la capitale. Cependant, il s'interroge sur la logique qui conduit les services de l'État à délivrer des documents pour les remettre en cause des années plus tard. On écoute Steve Mbikai au micro de Grace Amzati.
Comment expliquer cette contradiction que l'État qui délivre le document officiel aux citoyens pour le lotissement et différentes concessions, le même État vient détruire ses maisons 5 ans, 10 ans, voire 20 ans après, sans indemniser les occupants, que moi j'appelle de bonne foi parce qu'ils ont fait confiance à l'État et ils ont payé l'argent dans le reste de l'État avant d'avoir les certificats d'enregistrement. Et l'installation prévoit que, qu'on donne une mise en demeure de 8 jours jusqu'à plus de mois. Mais j'ai suivi le ministre provincial dire qu'il accorde 48 heures aux gens pour passer à la démolition. Ça devient illégal. Et quand c'est illégal, l'État doit indemniser les victimes. Et même si on peut dire que ce sont des mauvaises foi, ces victimes-là, pour des raisons sociales, l'État doit les assister. Avoir le nombre de personnes concernées, on ne peut pas les laisser comme ça à la belle étoile. L'État a l'obligation d'intervenir pour leur donner un logis ou leur donner quelque chose pour les aider avoir un nouveau logement.
En Ituri, des violents combats ont éclaté ce lundi matin entre les FARDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, la CRP, à Nyamamba et dans la périphérie de Kasseni, deux localités lacustres situées à environ 60 km de Bounia. Selon plusieurs sources concordantes, l'armée congolaise a réussi à déloger les assaillants. Le bilan provisoire fait état de deux morts et de plusieurs blessés. Toutes les activités économiques et scolaires ont été paralysées à Chomia et Kasseni, tandis que le trafic entre Bounia et Kasseni a été suspendu. Le reportage d'Isaac Remoyope rendu par Stanislas Diomi.
Les affrontements ont débuté dimanche vers 23h. Les miliciens de la CRP ont lancé une attaque simultanée à Nyamamba et à Kasseni, avec pour objectif de reprendre le contrôle de leur bastion de Nyamamba, mais aussi de se ravitailler en armes à la base navale de Fardissé à Kasseni. L'armée a riposté et les combats se sont poursuivis jusqu'à ce lundi matin aux alentours de 6h. Les Fardissé ont finalement repris le dessus, contraignant les assaillants à fuir vers la plaine du lac Albert. Le bilan provisoire fait état de deux morts et de plusieurs blessés, principalement parmi les déplacés vivants sur le site de CE39 et Mutanzige, selon des sources locales des droits de l'homme. Les écoles n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi matin dans ces deux localités lacustres. Les activités commerciales et le trafic entre Kasseni, Chomia et Bounia ont timidement repris dans la journée, mais la population reste sous le choc. Les autorités locales saluent l'intervention rapide des FARDC qui a permis de rétablir un calme encore précaire dans la région.
Au Nord Kivu, des combats opposant les rebelles AFC M23 aux combattants Wazalendo ont commencé dans la matinée ce lundi dans le village Ngululu. C'est dans le secteur Osso-Bunyungu, groupement Nyamaboko, territoire de Masisi. Selon des sources locales, les rebelles de l'AFC M23 ont attaqué autour de 5h30 les positions de Wazalendo, notamment APCL de Javier Karahiri dans la zone. Les combats touchent aussi le village Mikeno dans le groupement voisin de Mufunishanga, chefferie de Baoundé. Ceci, selon nos sources, entraîne de nouveaux mouvements de population, notamment vers les territoires voisins de Walikale. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Nord Kivu toujours, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiave, séjourne depuis dimanche à Beni, chef-lieu provisoire de la province. Sa mission vise à contrôler et évaluer les activités de la police dans cette ville qui abrite depuis plusieurs mois des policiers venus des zones sous occupation de l'AFC M23 dans les territoires de Nirangongo, Masisi, Rutshuru et la ville de Goma. Certains de ces policiers n'ont pas encore accès à leur solde. Le commissaire divisionnaire principal, Mouchi Diave, l'explique au micro de Martial Papi Moukeba.
Après les replis que moi j'appelle stratégiques et tactiques des éléments de la police du Nord Kivu, ici à Beni, après l'attaque du rebelle de APC M23 sous l'appui des troupes rwandaises, il est de mon devoir en tant qu'inspecteur général de la police de venir à Beni pour diverses raisons. Comme tout policier, je suis à Beni pour sécuriser la population et leurs biens, pour prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme inspecteur général de la police, j'ai plusieurs missions. Auditer, enquêter et évaluer les activités de service de la police nationale congolaise. Voilà ce qui amène l'inspecteur général de la police dans la ville de Beni. Le premier message que j'adresse d'encouragement aux voyants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, aux policiers qui sont avec moi ici, d'avoir prêté main forte à nos militaires et d'avoir tenu et résisté de devant cet ennemi qui est en train de faire couler le sang du peuple congolais.
Le docteur Denis Mukwege demande au gouvernement congolais de réaliser sa promesse de mettre fin à l'impunité pour que non seulement les auteurs des viols, mais aussi les détourneurs des deniers publics répondent de leurs actes. Le prix Nobel de la paix a lancé cet appel à l'occasion de la première projection du film Nganga, entendez par là « Celui qui soigne ». C'était ce dimanche à Kinshasa, au cours d'une soirée organisée par les réseaux citoyens Pona Congo, cela en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles des membres du gouvernement et de l'opposition politique, du corps diplomatique accrédité à Kinshasa et de la société civile. On écoute Dr Denis Mukwege dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Les viols comme armes de guerre, c'est souvent des viols qui se commettent avec une méthode. Donc vous pouvez retrouver le même groupe armé qui commet les viols en utilisant la même méthode pour avoir en fait le même résultat. Et donc ici, nous avions traité des femmes qui étaient souvent violées en public pour certains groupes armés. D'autres, c'était des viols collectifs, des viols en présence de la famille, des enfants, des parents, de la communauté, mais des viols avec torture ou en fait des viols avec esclavage sexuel. Chaque groupe armé utilise sa méthode pour humilier la communauté considérée comme ennemie. Mais ce sont des viols qui sont massifs, puisque nous avons des cas où un village est attaqué et 200 femmes sont violées. On ne peut pas faire un acte comme ça s'il n'y a pas une préparation en avance. Violer plus de 200 femmes dans un village, donc il fallait préparer la stratégie et pouvoir les faire.
Réalisé par Marie-Hélène Roux, de nationalité française, ce film a été produit par Cynthia Pinette, également française, et l'américaine Angelina Jolie, en hommage au prix Nobel de la paix et pour faire entendre au monde l'essence de son combat. Plusieurs cas de noyades sont enregistrés dans la rivière Lulua, dans le secteur de Chimbote, territoire de Demba, situé à 60 km de la ville de Kananga. Depuis le début de l'année, plus d'une dizaine de personnes y ont trouvé la mort, indique la nouvelle société civile congolaise de ce territoire. Pour cette structure, cette situation est consécutive au manque de pirogues de bonne qualité et des gilets de sauvetage lors des traversées de cette rivière. Elle en appelle à l'implication des autorités pour sauver des vies humaines. C'est un reportage d'André Katende Ngalamulume.
Dans sa déclaration de dimanche, Marcel Masanka, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de Demba, parle de deux personnes qui ont déjà perdu la vie pour ces mois d'octobre et 14 depuis le début de l'année. Il révèle que chaque mois, l'on enregistre des cas de noyade des passagers et paysans qui traversent la rivière dans des pirogues de fortune pour aller au champ dans les secteurs de Chimbote, groupement de Bakwamulumbankanga. La plupart de ces victimes, précise la même source, sont des femmes et des enfants qui accompagnent leurs parents. La nouvelle société civile congolaise de Demba lance un SOS aux autorités tant provinciales que nationales à venir en aide à la population avec des pirogues qui répondent aux normes et des gilets de sauvetage. Cette structure citoyenne demande aussi aux autorités de jeter un pont sur cette partie de la rivière Lulua afin de limiter le perte en vies humaines. De Kananga, André Katendengalamulume pour Radio Kapi.
Actualité internationale.
Alors que la présidentielle en Côte d'Ivoire du 25 octobre approche, l'opération Espérance a officiellement démarré le 5 octobre. Objectif, selon le gouvernement ivoirien, sécuriser l'élection. Quelques 44 000 membres des forces de sécurité vont être déployés jusqu'au 4 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Depuis plusieurs jours, la présence policière est davantage visible dans plusieurs quartiers d'Abidjan. À peine rentré en Centrafrique, Dominique Désiré Erénon, une des figures de la contestation et président du parti Marche pour la démocratie et les saluts du peuple, a été arrêté vendredi 3 octobre à l'aéroport de Bangui. Exilé en France depuis 2022, cet ancien expert constitutionnaliste auprès de l'Union africaine est connu pour son opposition à la réforme de la constitution de 2016. Selon son parti, il avait fui une tentative d'enlèvement. Son arrestation suscite de nombreuses questions dans les pays.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les organisations impliquées dans la protection des forêts et l'administration de l'environnement évaluent le processus de la mise en œuvre de la foresterie communautaire dans cette entité. C'est ce qui justifie l'organisation de la table ronde sur cette thématique par l'ONG Trompe-Boss RDC avec l'appui de ses partenaires. C'était du 1er au 2 octobre dernier. Pour en savoir plus, nous recevons le directeur de cette ONG, le professeur Alphonse Maindo, s'entretient avec Jacques Moukou.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Professeur, quelle est la motivation de l'organisation de cette table ronde?
Co-organiser avec nos partenaires, notamment de CAGFT, avec l'appui de nos autres partenaires techniques, Tenu Facility, RFN, c'est parce que nous voulions faire un échange des expériences, des leçons apprises. C'est pour ça que nous sommes réunis pour réfléchir par rapport à la foresterie communautaire. Quelles sont les avancées? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Quels sont les succès qu'on a pu connaître avec la mise en œuvre de la foresterie communautaire de la Tchopo. C'est aussi une préparation à la table ronde multi-acteurs nationaux sur la foresterie communautaire qui aura lieu dans les semaines qui suivent. Donc nous, on a voulu réfléchir avant ici pour que nous amenions des leçons et des expériences au niveau national pour alimenter la stratégie nationale qui va être révisée très prochainement.
Quelle est la particularité de cet atelier?
La particularité de celle-ci, c'est que nous sommes dans un contexte où la Tchopo a montré, si vous voulez, des avancées considérables. La dernière fois qu'on a pu avoir ça, on avait pratiquement qu'une concession forestière de communauté locale qui avait été attribuée ici. Et cette fois-ci, nous avons 14 titres qui ont été signés par l'autorité provinciale et nous en avons une trentaine d'autres initiatives qui sont dans les pipelines puisque ça a été affiché. Il reste plus qu'on attend dans quelques jours, en tout cas moins d'un mois maintenant, pour qu'on voit s'il y a des contestations ou pas pour signer. Ça veut dire qu'on va avoir aussi ici dans la Tchopo désormais à peu près plus d'un million d'hectares gérés par les communautés locales.
Au cours de cet atelier, on a parlé du couloir vert qui relie le Nord Kivu à Kinshasa en passant par la Tchopo. Est-ce que ce couloir est compatible avec la loi foncière?
Oui, ce couloir vert, c'est une initiative de la plus haute autorité nationale et qui vise à préserver les forêts pour atteindre les objectifs qui étaient ceux du gouvernement congolais d'arriver à faire 30% de notre territoire national sous conservation. Alors, donc, ils ont pris cette initiative-là. Mais cette initiative, si elle est louable, pose un certain nombre de problèmes.
Et alors, quels sont ces problèmes?
Parmi ces problèmes, d'abord, les concepts même de aires protégées à vocation communautaire. Comment peut-on mettre dans une aire protégée qui couvre les villes comme Kisangani, comme Kinshasa, Mbandaka, tout ça? C'est absolument incompréhensible. Et on a aussi là des communautés qui vivent là-bas. Il y a des titres qui existent là-bas sur ces couloirs-là. Et après, communautaires. Et ici, on a beaucoup de propriétés privées. Donc, comment on peut parler de communauté? C'est quoi cette communauté? Ça, c'est le premier problème que ça pose. Deuxième problème, c'est au niveau de consentement libre, informé, préalable. Ce qu'on appelle les CLIP. Or, nos lois, y compris notre constitution, exigent qu'on puisse consulter les gens avant de faire ça. Mais là, c'est un coup de crayon. Les autorités ont décidé et ils ont pris les couloirs et qui fait pratiquement beaucoup de superficie. Troisième problème que ça pose, c'est que nous avons là les tracés. Les tracés qui rentrent à travers la forêt, à travers la ville et les fleuves. Alors que si on veut vraiment contribuer à la préservation ou à recréer la végétation dans le pays, on devrait faire à l'exemple de l'Union africaine, dont nous sommes membres d'ailleurs. L'Union africaine a fait ce qu'on appelle la grande muraille verte et qui consiste à lutter contre la désertification en remettant la végétation pour empêcher les déserts de continuer à avancer. Et ici, nous avons justement, au sud du Congo, nous avons cette zone très dégradée qui est menacée par les activités humaines. C'est là qu'il fallait remettre de la végétation. Et aussi au nord, excusez-moi, c'est là aussi qu'on devrait faire ça. Donc le tracé, ça pose aussi problème. Allons faire pour que ça puisse changer.
Professeur, est-ce que ce couloir vert est compatible avec les objectifs que vous poursuivez dans le cadre de la protection des forêts?
Évidemment, les objectifs affichés de ce couloir vert répondent effectivement à ce que nous voulons, avoir des forêts qui sont préservées, des gens qui dépendent de ces forêts, qui améliorent leurs conditions de vie. En ce moment-là, nous sommes d'accord avec eux. Mais là où nous ne sommes pas d'accord avec ce processus, c'est en fait avec ce couloir vert, c'est le processus. Comment il a été entamé? Décidé dans un bureau et puis on impose aux gens, alors qu'on devrait consulter. Il y a des gens qui n'aimeraient pas être dans ce couloir vert-là, mais ils sont d'office dedans. Il y a des droits qui sont là-bas, qui n'ont pas été d'abord évacués. Même si on peut dire qu'on va les garder, on ne va pas modifier ces droits qui sont là-bas. Mais les peuples autochtones, les communautés locales qui sont sur ce tracé-là, ils ont droit à savoir, à dire leur opinion. Il fallait leur demander l'opinion avant.
Que comptez-vous faire maintenant auprès du gouvernement par rapport à cette question?
Alors, nous avons déjà commencé beaucoup d'initiatives avec d'autres collègues de Kinshasa, la société civile, pour donner nos opinions. Ça veut dire que nous sommes dans une approche constructive pour discuter, pour améliorer ce qui existe, parce que nous voulons qu'il y ait meilleure préservation préservation de forêts, parce que je rappelle, les forêts contribuent à plus de 25% aux équilibres climatiques et tous les écosystémiques. Et c'est pour ça que nous sommes d'accord avec ce projet. Mais la manière dont ça a été fait, les possibilités qui le conduisent, nous ne sommes pas d'accord et nous voulons qu'on améliore la copie. Faute de quoi, il y aura sans doute des oppositions.
Professeur Alphonse Mahindo, merci.
Je vous en prie.
C'était notre invité, professeur Alphonse Mahindo, qui s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée, qui a connu la coordination éditoriale d'Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Alei Rungumushinj, Pierre Diassinois, la mise en onde. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur toutes nos plateformes digitales, ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix.